Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, président fondateur et pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire avec moi la priorité du royaume? Non, la priorité du royaume. La priorité du royaume, c'est le thème sur lequel nous sommes maintenant depuis 2 semaines. C'est un thème qui nous prépare à rentrer dans autre chose. Mais il est important de bien préparer les fondements. Il y a des sujets dans la Bible, des sujets dans l'Église qu'on ne peut pas partager ensemble, qu'on ne peut pas enseigner si on n'a pas fait asseoir certains fondements. Est-ce que vous me suivez? S'il y a certains fondements qui ne sont pas posés dans le cœur de l'homme, alors il y a certains sujets qu'on ne pourra pas aborder. Ou bien si on les aborde, ces sujets, les gens risquent d'être à côté. Les gens risquent de ne pas comprendre. Les gens aiment, quand ils viennent à l'église, être stimulés. Ils aiment écouter des choses qui leur font du bien. Ils aiment les sujets qui font rire, les sujets qui passionnent, les sujets comme le mariage, les sujets comme les affaires, l'argent, les relations qu'on a avec les autres, etc. Les gens aiment les sujets qui passionnent, je vous assure. Dès qu'on fait un séminaire sur le mariage, par exemple, et on va en avoir un dans les prochains mois, vous allez voir, ça va pas être la même chose. L'engouement n'est pas pareil. Parce qu'il y a tellement de gens qui cherchent leur âme sœur qu'ils ont, ils vont partout pour trouver les solutions. Donc, il y a des sujets dans l'Église biblique qu'on ne peut pas aborder tant que les fondements de la parole de Dieu ne sont pas posés. Quand on construit une maison, quand vous voyez une maison déjà finie, on dit « Waouh, la maison est très belle !» Les tôles sur le plafond sont très belles. La barrière est magnifique. Le portail est très beau, etc., etc. La maison est en étage, etc. Mais cette maison est posée sur des fondations que tu ne vois pas de tes yeux. Ce sont ces fondations-là qui font que lorsqu'il pleut ou lorsqu'il y a une tempête, la maison reste debout. Est-ce qu'on me suit? Donc, si les fondations ne sont pas posées, il y a des thématiques qu'on ne pourra pas aborder. C'est pour cela que depuis un certain temps, on prend le temps d'aborder des thématiques bien précises pour préparer le cœur, nos cœurs à recevoir certains enseignements. Et le message le plus important qu'il faut enseigner à l'Église, le plus important de tous les messages qu'il faut enseigner et continuer d'enseigner à l'Église, c'est le message du royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut dire avec moi le royaume de Dieu? Jésus-Christ est venu sur terre, il est resté 3 ans, il a enseigné sur le royaume de Dieu. Il est allé à la croix, il est mort, il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, dans le premier chapitre du livre des Actes, la Bible dit que Jésus-Christ est resté 40 jours et 40 nuits à enseigner les choses concernant le royaume. Ça montrait l'importance du message. Et avant de partir, Matthieu 28, Jésus-Christ dit, « Allez et annoncez cette bonne nouvelle du royaume à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. » Ce sont les paroles de Jésus ou pas? Ce sont les paroles qu'il a dites. La bonne nouvelle du royaume. Donc, ça montre que ce message, cette bonne nouvelle est extrêmement importante. Si Jésus-Christ, qui est Dieu fait chair, venu sur terre pour nous sauver, dit « Allez annoncer cette bonne nouvelle. » Il ne dit pas « la bonne nouvelle ». Il dit « cette bonne nouvelle du royaume ». Pourquoi il précise « cette bonne nouvelle du royaume » ? Parce qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Il y a beaucoup de messages et de bonnes nouvelles dans le monde qui convertissent les gens, auxquels les gens se convertissent plutôt. L'islam est une bonne nouvelle. Les musulmans sont très bien dans leur islam. Et ils vous mettent en avant des principes qui sont louables. Tu dois aimer ton frère, etc., etc. Voilà, toutes ces choses-là. L'islam est une bonne nouvelle. Le bouddhisme est une bonne nouvelle. Bouddha, c'était quelqu'un de bien, d'après ce qu'on dit. C'est une bonne nouvelle, le bouddhisme. La philosophie, c'est une bonne nouvelle. Socrate, Platon, etc. C'est des bonnes nouvelles, c'est des choses qui donnent de l'intelligence. C'est des choses qui développent l'âme, le développement personnel, etc. Tout ça, ce sont des bonnes nouvelles, ce sont des choses qui sont bien. Mais j'ai pour habitude de dire que si avant de partir le matin au travail, je te demande de me cuisiner une tarte aux pommes et le soir je viens, tu m'as fait un gâteau au chocolat, est-ce que tu m'as fait quelque chose de bon? Tu m'as fait quelque chose de bon, oui ou non? Oui. Mais tu ne m'as pas fait ce que je t'ai demandé. Tu m'as fait quelque chose de bon, mais ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Donc, dans l'église, il y a beaucoup de belles choses, de bonnes choses qu'on peut dire et enseigner. De bonnes choses qui font du bien au cœur, des bonnes choses qui font du bien à l'intellect, à l'âme, etc. Mais si on n'enseigne pas cette bonne nouvelle du royaume de Dieu aux gens, les gens ne grandiront pas et ne connaîtront pas Dieu comme ils doivent le connaître. Et je peux vous assurer que quand on commence à enseigner le message du royaume des cieux dans l'église, je peux vous assurer que ça déménage. Parce que quand les gens n'ont pas l'habitude d'entendre le message du royaume, ça fait quelque chose. Ils disent, mais attends, on est dans l'église depuis des années, mais on n'a jamais entendu la parole enseignée comme ça. Oui. Les juifs, au temps de la Bible, avaient l'habitude d'entendre la parole de Dieu. Ils connaissaient la Torah, ils allaient à la synagogue tous les jours. Mais lorsque Jésus vient leur parler, ils disent, mais la Bible dit que les gens étaient frappés de sa doctrine car il parlait comme ayant autorité. Les gens étaient frappés de la manière dont il parlait. Parce que, et la Bible dit que lorsque les pharisiens ont envoyé des huissiers chercher Jésus, les huissiers sont revenus, bredouilles, et ils ont demandé, mais pourquoi l'avez-vous pas attrapé? Ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme lui. Jamais on n'a jamais entendu parler comme ça. Parce que quand on entend la bonne nouvelle du royaume, pourquoi est-ce que ça nous interpelle? Vous savez pourquoi? Parce que quand on entend la bonne nouvelle du royaume, ça parle de notre identité. Ça parle de qui nous sommes en Christ. Ça parle de qui nous sommes devant Dieu. Et la plus grande crise qu'il y a dans l'église aujourd'hui, c'est la crise identitaire. Les enfants de Dieu remplissent les églises, mais ils ne savent pas qui ils sont. Vous voulez savoir pourquoi ils ne savent pas qui ils sont? Eh bien, regardez simplement les vies qu'ils ont. Ils souffrent. Il y en a même qui en ont fait un commerce au point d'appeler leur église « Arrêtez de souffrir ». Mais oui, « Arrêtez de souffrir », c'est un très beau nom. Parce que tout simplement, ça parle aux gens. Parce que les gens souffrent. Mais pourquoi les gens souffrent? La Bible dit dans le psaume 82 au verset 4 que « J'ai dit que vous êtes des dieux, mais pourtant vous mourrez comme des hommes. » C'est Dieu qui dit ça dans le livre des psaumes. « J'ai dit que vous êtes des dieux, avec un petit dé, mais pourtant vous mourrez comme des hommes. » Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Dieu est en train de nous dire que dans Genèse 1, 26, Dieu s'est parlé à lui-même. Il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et Dieu créa l'homme et la femme et qu'il domine. Verset 28, il leur parla, Dieu les bénit en disant ceci. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Voici le but de l'homme, voici le but pour lequel l'homme a été créé. Dominez. Assujettissez, remplissez la terre, soyez féconds, multipliez-vous. Il y en a qui pensent que multiplier veut dire faire beaucoup d'enfants. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Soyez féconds veut simplement dire, comme on a traduit dans la Bible en anglais, be fruitful, porte du fruit, c'est-à-dire fais sortir ce qui est en toi. La création de l'homme ne faisait que, comment dire, suivre le processus de création qui avait commencé depuis le premier jour. Lorsque Dieu créa les cieux, et la terre, pour créer les étoiles, Dieu parle à l'étendue des cieux et dit que l'étendue des cieux crée toutes sortes d'astres. Et il prit le grand astre pour présider au jour et le petit astre pour présider à la nuit, pour parler du soleil et de la lune. Que la terre produise des végétaux. Et la terre produisit des végétaux. Que la terre produise des animaux de toute espèce. Et la terre produisit des animaux de toute espèce. Que les mers produisent des poissons de toute espèce. Et les mers produisent des poissons de toute espèce. Et le sixième jour, il en arrive à lui-même. Il dit, ok, maintenant moi je vais créer une créature qu'on va appeler homme. En grec, le mot homme, c'est le mot ish. I-C-H, plutôt en hébreu. C'est le mot ish. Homme. Il se parle à lui-même. Et cette créature-là, il la fait sortir de lui, à son image et selon sa ressemblance. Et quand il crée cette créature, il fixe le but pour lequel cette créature va exister, c'est-à-dire dominer. Parce que moi, je domine au ciel et vous, vous allez dominer sur la terre. Est-ce qu'on me suit jusqu'ici? Ça va? Et ensuite, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui donne un commandement, soyez féconds, multipliez, assujettissez, remplissez et dominez. Et la Bible dit au chapitre 2, il y avait sur la terre personne pour cultiver la terre. Il y avait toutes sortes d'arbres. Enfin, sur la terre, il n'y avait aucun végétal. Il n'y avait pas de végétaux, ni d'arbustes, etc. Chapitre 2, verset 1. Parce qu'il n'y avait personne pour cultiver la terre. Genèse 2, au verset 2 maintenant, il dit, « Et Dieu prit de la poussière de la terre et en forma l'homme. » Et il dit à l'homme, « Cultive la terre. » Et Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, etc., etc. Vous connaissez l'histoire. Voilà le but pour lequel l'homme a été créé. Mais le problème qui s'est posé, c'est que les oiseaux ont obéi, les mammifères obéissent, les astres obéissent, ils font ce qu'on leur a dit. Mais l'homme, lui, a désobéi. C'est ce qui a créé plein de problèmes. Parce qu'il y a une personne qu'on a appelée Adam, qui est ton aïeul grand frère, qui a désobéi. À cause de lui, nous avions péché. Mais Christ est notre rédemption. Christ est revenu et par Christ, aujourd'hui, nous sommes réconciliés à Dieu et nous pouvons aujourd'hui à nouveau exercer cette autorité, cette domination et poursuivre le but pour lequel nous avons été créés. C'est ce que nous avons commencé à dire jusqu'ici. Et la priorité de Dieu, c'est que l'homme puisse retrouver la place qu'il avait au départ. L'homme puisse retrouver cette place. Mais pour que l'homme puisse retrouver cette place, il fallait que Dieu lui-même puisse venir sur terre pour accomplir ce qu'on a appelé la semaine dernière une mission. Cette mission consistait en différents points qu'on a abordés, mais particulièrement celle de remettre le Saint-Esprit en l'homme. Parce que la plus grande perte que Adam a eu à connaître dans le jardin d'Éden lorsqu'il a péché, c'était de perdre la présence de Dieu. Parce que le péché fait fuir la présence de Dieu. Dieu ne cohabite pas avec le péché. Si tu as une vie où tu vis dans le péché au regard de la parole de Dieu, sache que Dieu n'est pas avec toi. Ça ne sert à rien de chanter des chants « Tu es avec moi ». Il n'est pas avec toi si tu es dans le péché. Il n'est pas avec toi. Parce que Dieu dit « Ça, moi, je ne vais pas là-bas ». Donc, mets d'abord ta vie en règle. Et quand tu as mis ta vie en règle, là, tu peux dire à Dieu, maintenant, viens habiter en moi. Amen. Est-ce qu'on me suit jusqu'ici? Donc, Jésus-Christ avait une mission, celle de rétablir l'homme à sa place. La semaine dernière, j'ai donné une image. J'ai dit que si vous mettez un livre sur une table et que ce livre tombe par terre, ce livre ne peut pas revenir sur la table de lui-même. Il faut que quelqu'un se baisse, le ramasse et le remette sur la table à la position qu'il avait au départ. Et c'est exactement ce que Dieu a fait lorsque l'homme a désobéi. Quand on parle de la chute, l'homme n'est pas tombé d'une chaise. L'homme n'est pas tombé d'une table. L'homme est tombé d'une position d'autorité qu'il a perdue. Et Dieu a dû lui-même venir prendre l'homme qui était à terre et le remettre sur la table. Vous voulez que je vous donne une image de la position que l'homme a perdue? Je vais vous donner une image et ensuite on va rentrer dans notre message. L'homme était semblable à Dieu. L'homme était semblable à Dieu, il était parfait. Et l'autorité qu'il avait était une autorité qui était au-dessus de tout. Lorsqu'il a désobéi, l'homme est tombé plus bas que terre. Dans le monde dans lequel nous vivons, il y a différents types de royaumes qui existent, dont le royaume de Dieu et le royaume de l'homme. Le royaume qui est au-dessus de tous les royaumes qui existent, c'est le royaume invisible dans l'invisible, qu'on appelle le royaume de Dieu, le royaume des cieux. C'est là où Dieu est lui-même. Satan lui-même ne peut même pas aller là-bas. C'est l'invisible dans l'invisible. C'est comme ça que Dieu arrive à opérer sans que Satan le sache. Il ne voit rien. C'est le royaume des cieux. C'est là où Dieu règne. Juste en dessous du royaume des cieux, il y a un autre royaume qu'on appelle le royaume angélique, le royaume des anges. Dans ce royaume des anges, il y a des gens comme l'ange Michael ou l'ange Gabriel. Vous en avez déjà entendu parler de ces gens-là. Ce sont des gens qui font les allers et retours, les navettes, là, parfois quand il y a des missions, des messages à apporter aux hommes. C'est le royaume des anges. C'est tout un monde, le royaume des anges. Les anges même eux-mêmes ne peuvent pas accéder à Dieu si Dieu ne le leur permet pas. Est-ce qu'on me suit? Après le royaume des anges, on rentre dans le physique, on a ce qu'on appelle le royaume atmosphérique. Les astres, le soleil, la lune, les étoiles, tout ce qu'on voit là, les galaxies, l'univers, c'est tout un monde. C'est tout un monde que l'homme n'arrive pas encore à percer. Le royaume atmosphérique. Après le royaume atmosphérique, on a des royaumes tels que le royaume animal, les animaux, où on dit que le lion est le roi des animaux, etc., etc. C'est tout un monde, les animaux. C'est tout un monde. Après le royaume des animaux, on a le royaume des végétaux. Le royaume des végétaux, les fleurs, etc., etc. C'est tout un monde aussi que l'homme ne cesse d'étudier. Parce que dans le royaume des végétaux, on peut trouver des remèdes, des vaccins, on peut étudier tout un tas. C'est tout un monde. On peut aussi y trouver des maladies. Après le royaume végétal, il y a ce qu'on appelle le royaume des... comment t'appelles ça? Le royaume des pierres. Le royaume des pierres. Le diamant, l'émeraude, toutes ces choses-là qui sont en dessous. C'est tout un monde aussi. Où on dit que le diamant, c'est le roi des pierres précieuses. Après le royaume des pierres, on a le royaume qu'on appelle le royaume de l'atome. Vous connaissez l'atome? C'est toute petite chose qu'on n'arrive pas à voir à l'œil nu, qu'on est obligé de prendre des grosses loupes pour voir. Et après le royaume de l'atome, on a un autre royaume encore plus petit qu'on appelle le royaume viral, le royaume des virus. Vous n'avez pas remarqué que l'homme, après avoir trouvé remède sur remède pour guérir des maladies comme la peste, etc., à chaque fois, il y a toujours un virus plus virulent qui vient faire ça dur aux hommes. Parce que c'est tout un royaume. Et l'homme, quand l'homme aura trouvé le remède, par exemple contre le sida, il y a encore un autre qui va venir. Et ils n'ont pas fini, parce que c'est tout un monde. Et le royaume de l'homme est le dernier royaume. L'homme, quand il a chuté, il a quitté le ciel où il était pour venir en dessous, au tout dernier. C'est pour cela que l'homme souffre de virus, de maladies. Quand le chien te voit, il te poursuit. Quand le soleil chauffe, ça te brûle, etc. L'homme ne connaissait pas toutes ces souffrances-là avant. L'homme ne connaissait pas toutes ces souffrances-là. Donc l'homme est tombé très très bas. Et en Christ, aujourd'hui, nous sommes repositionnés à notre position initiale. Amen. C'est pour ça qu'il est dit que Christ nous a ressuscités ensemble avec lui et nous a fait asseoir à la droite de Dieu avec lui. Éphésiens 2. C'est pour cela que dans la vie, quand tu marches en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois jamais opérer selon ta condition. Tu dois toujours opérer selon ta position en Christ. Quand tu es face à une montagne ou face à une situation, au lieu de regarder à tes problèmes, commence à décréter et à ordonner selon ta position. Parce qu'un roi ordonne et décrète. On avance. Et la semaine dernière, on a insisté sur ce point, la priorité du royaume. Et aujourd'hui, on va rapidement voir un autre point qui est très important, qui est prioritaire pour Dieu. Ça rejoint ce qu'on a vu jusqu'ici. La semaine dernière, on a parlé d'un point très important qui était la mission absolue de Jésus. Deux points, restaurer notre place et notre autorité dans le royaume. La mission absolue de Jésus. L'objectif principal de Dieu pour nous a toujours été le même. C'est de nous positionner à notre position initiale pour qu'on puisse à nouveau exercer notre autorité en Christ. Autorité que l'homme avait perdue, mais autorité qu'on retrouve en Jésus-Christ. Et Adam, on l'a dit, n'était pas la touche finale. Adam n'était qu'un essai, qu'un prototype, qu'un aperçu avant-impression de ce que l'homme parfait devait être, Christ. C'est pour cela que Jésus-Christ est l'homme parfait. C'est pour cela que si tu veux savoir comment marcher et comment opérer sur la terre, tu prends les évangiles et tu regardes comment Christ opérait. Jésus-Christ arrive chez Pierre, on lui dit la maman de Pierre est malade. La Bible dit que Jésus-Christ alla dans la chambre, il se pencha sur le lit, imposa les mains à la maman et il menaça la fièvre. Il n'est pas allé en courant à la pharmacie acheter un médicament. Il a d'abord prié et il a menacé la fièvre. Ça m'appelle une histoire. Une fois, on était chez ma mère et parfois, elle me trouve un peu bizarre avec mon épouse. Et ma fille était très mal. Ma fille était très fiévreuse. Et ma mère commençait à paniquer. « Ah, mais il faut emmener l'enfant à l'hôpital. Oh, il faut aller là. Est-ce qu'on a acheté les médicaments ? Oh !» Et puis, j'ai dit « Donne-moi mon enfant ici. » J'ai pris l'enfant. Je me suis mis sur le côté et j'ai commencé à prier sur l'enfant. Et puis, quand elle voit ça, elle fait « Ah !» Pardon, j'avais oublié. Lui, il prie. J'ai dit, maman, avant de courir pour aller acheter le médicament, je prie d'abord. Par sagesse, ensuite, je prends le médicament et je lui donne. Je ne suis pas fou aussi. Mais je prie et j'ai pris autorité sur cette fièvre. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, tu lâches ma fille. On lui a donné le médicament, mais je suis sûr que c'est ma prière qui avait fait de l'effet. J'en suis sûr et certain parce que ce n'était pas la première fois que ça arrivait. Et souvent, ça arrive quand elle est malade comme ça, on prie. Et on voit le lendemain matin, elle se lève tranquillement. Donc, cette autorité, on l'avait perdue, mais on l'a retrouvée en Christ. Et la mission principale de Jésus, Jésus-Christ avait une mission très importante. Premièrement, la mission de Jésus, nous l'avons dit, c'était de réintroduire le royaume de Dieu sur terre, déjà par sa propre présence, mais il devait aussi l'enseigner. Et c'est ce qu'il a fait pendant 3 ans de ministère. Il a enseigné ce royaume. Pourquoi? Pourquoi il faut enseigner le royaume? Parce que la mentalité que nous avons dans le monde est totalement différente de la mentalité de Dieu. Ésaïe 55 nous dit, c'est Dieu qui parle, il dit, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix. » Ça veut dire que je ne pense pas comme vous. Donc il y a tout un travail de rééducation mentale que Dieu doit faire dans ta manière de penser quand tu viens à Christ. Est-ce qu'on me suit? C'est la première chose que Dieu devait faire, Jésus-Christ devait faire. La deuxième chose que Jésus-Christ devait faire, c'était de restaurer la justice et la sainteté dans l'humanité par son sacrifice. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu ne pouvait pas venir à nouveau habiter dans le cœur de l'homme, si l'homme n'avait pas été à nouveau sanctifié. Parce que lorsque l'homme a péché, le péché est entré dans le monde. Et il fallait que Dieu, en la personne de Jésus, sanctifie l'homme pour que la personne du Saint-Esprit puisse revenir habiter en l'homme. Est-ce qu'on me suit? Car Dieu ne cohabite pas avec le péché. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait par son sang. Il nous a lavé et a permis au Saint-Esprit de revenir, ce qui était le troisième volet de sa mission, c'est-à-dire restaurer le Saint-Esprit dans l'homme. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante, on l'a dit. C'est celui qu'on a appelé le tuteur royal. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus-Christ et que le Saint-Esprit entre dans ta vie, le Saint-Esprit commence à faire un travail de rééducation mentale. C'est pour cela que Paul dit dans le livre de Romains au chapitre 12, « Ne vous conformez pas à ce monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. » Parce que votre intelligence a été corrompue à cause de ce monde. Ta manière de penser est trop attachée à ce monde, tu dois changer. J'ai donné une image en disant que si, imaginez que le prince William d'Angleterre était né à sa naissance, avait été enlevé par quelqu'un, par un Congolais de Brazza, et on l'avait emmené au Congo, le prince William, il a grandi au Congo, dans les bas quartiers du Congo, de Brazzaville, il a grandi là-bas. Il est Congolais. Au-dedans de lui, il est Congolais. Il parle même Lingala, tout. Et à ses 18 ans, depuis Londres, depuis le Buckingham Palace, la reine dit, maintenant allez chercher le fils, qu'il vienne régner. On arrive et puis on vient le voir et on lui dit, William, est-ce que tu sais que tu es prince, roi? Tu dois arriver en Angleterre, il va dire, pardon, non, ce n'est pas moi, vous devez vous tromper. Je ne suis pas prince, moi, je suis congolais. Alors ça, c'est des légendes, ça, non, je n'y crois pas. Tu es roi et tu dois penser comme un roi. Et rappelez-vous, j'avais donné l'image qui est une vérité. Le prince William et le prince Harry, quand ils sont nés, la première chose qu'on a faite, en plus de les laisser avec leurs parents, c'était de leur assigner des personnes qui sont en permanence avec eux pour leur enseigner les habitudes, les coutumes royales. Est-ce que vous savez ça? Quand les enfants de la reine ont grandi, ils ont grandi toujours avec des gens à côté d'eux qui sont toujours en train de leur montrer comment faire. Ces gens sont en permanence avec eux. Ce n'est pas juste des gardes du corps, mais c'est des gens qui sont là pour faire leur éducation. Ce n'est pas leurs parents qui font leur éducation. Ce sont ces gens-là qui font leur éducation. Est-ce qu'on me suit? Et le Saint-Esprit, c'est la même chose. C'est le tuteur royal et il est là pour t'apprendre à penser comme un roi. Parce que Dieu dit que tu es un roi, une reine. Et tu dois penser comme ça. Quand tu ouvres la Bible ne te parle que de royaume, de roi et de reine. Mais c'est justement parce que tu ne sais pas que tu es un roi et une reine que ça te saoule et tu fermes la Bible et tu ne la lis pas. Tu la laisses pendant des jours dans le tiroir parce que quand tu ouvres la Bible, ça te parle de royaume, de guerre, de politique. Et tu dis, mais c'est pas pour moi ça, je dois trouver un boulot. Mais Dieu dit, c'est là la solution. C'est ta manière de penser, ne colle pas. Amen. On avance. Et aujourd'hui, on va aborder un point rapidement, un point qui est très important. Pour cela, on va lire un passage. On va lire un passage, deux passages, même trois. On va lire un tout petit peu. La Bible nous dit au psaume 119 au verset 7, c'est le roi David qui parle. Il dit, « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai pas à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. » Est-ce qu'on peut dire avec moi les lois de ta justice? Encore, les lois de ta justice. Psaume 119 au verset 106, il dit, « Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. » Est-ce qu'on peut dire avec moi les lois de ta justice? Psaume 119 au verset 160, « Le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Est-ce qu'on peut dire avec moi les lois de ta justice? Et Jésus-Christ donne l'un de ses premiers sermons les plus célèbres. Et il le conclut en disant une phrase très importante que l'on connaît tous dans le livre de Matthieu au chapitre 30, chapitre 6 au verset 31. C'est le roi qui parle. Il dit, « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous. » Ça, c'est ce que tu murmures le plus souvent quand tu es en galère à la maison. « Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui ? » Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Ah, vraiment, je n'ai plus d'habits, j'en ai marre. Ça fait des mois que je ne me suis pas acheté des habits, etc., etc. Hein? Il faut que je m'achète de nouveaux. Le Seigneur dit, ne t'inquiète pas de ce que tu dois porter. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement, est-ce qu'on peut dire avec moi, premièrement, le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Au regard des passages qu'on vient de lire, le Seigneur nous montre l'importance capitale de ce qu'il appelle sa justice. La justice. C'est un mot, je vous assure, que très peu d'enfants de Dieu comprennent. La justice. J'ai fait quelques recherches hier dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, et je me suis rendu compte que le mot justice plus le mot jugement ou bien le verbe juger reviennent très, 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 très souvent. La Bible est un livre de jugement. C'est un livre de justice. La Bible est un livre juridique. Amen. C'est un livre juridique. Et c'est parce que, justement, nous, les enfants de Dieu, on a très peu de notions juridiques qu'on ne comprend pas la parole de Dieu. On avance. Quand on nous demande qu'est-ce qui est prioritaire pour Dieu. Quand on demande au roi David qu'est-ce qui est prioritaire pour Dieu, quand on demande à Jésus qu'est-ce qui est prioritaire pour Dieu, David et Jésus nous répondent sa justice et son royaume. Il n'y a pas plus important que cela. Et pourquoi Jésus-Christ nous dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice? Parce que la Bible ne nous parle que de royaume et de justice. Et pourquoi aujourd'hui la justice est un terme qui est très mal compris dans l'Église? Parce que tout simplement, dans les pays dans lesquels nous vivons, nous vivons dans ce qu'on appelle une démocratie. Et quand on parle de justice, naturellement, on comprend que ça parle de droit. D'accord? Ça parle de droit. Mais ce que l'on constate le plus souvent, c'est que les enfants de Dieu que nous sommes, pour beaucoup d'entre nous, on n'a aucune notion de droit. On ne connaît rien à la justice. On ne connaît rien au droit. Naturellement, regarde, quand tu as des problèmes avec la justice, comme tu n'y connais rien à la justice, tu vas chercher quelqu'un qu'on appelle un avocat, un homme de loi, quelqu'un qui connaît mieux que toi la justice et qui est censé te défendre, n'est-ce pas? Tout simplement. Eh bien, Jésus-Christ nous dit que vous, les enfants de Dieu, vous devez connaître le livre de la loi et de la justice. Parce que le temps vient, et il est déjà venu, où vous allez devoir vous tenir face à certaines situations et mettre en avant la justice de Dieu que vous êtes censé connaître. Et c'est parce que, tout simplement, vous ne connaissez pas la justice de Dieu que la vie vous malmène. Le problème, la solution à tes problèmes, ce n'est pas l'argent. La solution à tes problèmes, ce n'est pas une connexion, un piston, une position sociale. La solution à tes problèmes, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu parle de justice. Donc les gens s'intéressent très peu au droit. Et d'un point de vue juridique, qu'est-ce que la justice? On se pose la question. On va quelque part. Est-ce qu'on peut dire avec moi, il nous emmène quelque part? Oui, je vous emmène quelque part. Et à la fin, vous allez comprendre. Qu'est-ce que la justice d'un point de vue juridique? La justice est le cadre juridique qui régit les comportements, les relations, les droits et les privilèges des citoyens d'un pays. La justice, c'est un cadre juridique qu'on appelle la loi. Est-ce qu'on peut dire avec moi la loi? C'est cette loi qui génère ce qu'on appelle des lois, des principes, des ordonnances, des commandements ou des statuts que le gouvernement encadre pour le bien-être du peuple. Donc c'est très important. C'est très important de comprendre la justice. C'est très important de comprendre ce cadre juridique-là. Parce que c'est ce cadre juridique-là qui nous régit. Si on ne comprend pas ce cadre juridique-là, on risque de faire des erreurs qui peuvent nous coûter cher. C'est pour cela que le jour où tu violes une loi et que tu es arrêté par un homme de loi, un policier ou un juge, et tu dis « Oh, je ne savais pas !» Qu'est-ce que le juge ou l'homme de loi te répond? Nul n'est censé ignorer la loi. Nul, ça veut dire personne. Ça veut dire tout le monde dans le pays doit connaître la loi. Donc si tu violes la loi et tu dis je ne connais pas, tu es un menteur pour le juge. Tu es un menteur. On avance. Donc, c'est cette loi qui nous encadre, c'est cette loi qui constitue le cadre juridique dans lequel nous vivons. Et c'est ce cadre juridique-là, cette loi-là, qui régit nos comportements, les relations que nous avons les uns avec les autres. Si tu frappes quelqu'un, il a le droit d'aller voir un homme de loi ou bien un commissariat et porter plainte contre toi. Parce que tout simplement, il y a une justice dans le pays. Et lorsqu'il n'y a pas de justice dans un pays, qu'est-ce qu'il y a? Le désordre. Lorsqu'il n'y a pas de justice, il y a le désordre. C'est pour cela que lorsque le peuple juif, lorsqu'il est sorti d'Israël après sa délivrance, l'esclavage, et qu'ils sont arrivés tous dans le désert avec Moïse, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donné à Moïse ce qu'on appelle une justice, des lois, sur la base des 10 commandements. C'est ce que l'on peut lire dans les livres de Lévitique, les livres qui te fatiguent là, que tu n'aimes pas lire, Lévitique et Nombre. Quand tu ouvres le livre de Lévitique, qui est un livre très épais, c'est un livre qui ne te parle que de lois. Loi sur les relations les uns avec les autres. Loi sur les meurtres. Loi sur les viols. Loi, etc., etc. C'est de ce livre Lévitique-là que Napoléon Bonaparte s'est inspiré pour créer un livre que vous connaissez tous, qu'on appelle le Code civil. Est-ce que vous saviez ça, que Napoléon s'est basé sur la Bible pour créer le code civil? Il n'est pas allé prendre ça dans sa tête. Hein? Il allait chercher ça chez Dieu. C'est pour ça que le code civil est un livre qui est toujours d'actualité. Parce qu'il a pris la Bible. Et il a simplement adapté à notre temps. C'est tout. C'est un livre de loi. Amen. Donc les lois qui encadrent nos droits, nos avantages et nos privilèges sont contenues dans ce qu'on appelle la justice. Cette justice-là, bien entendu, Dieu est sage et intelligent. Cette justice-là, et nous, nous ne faisons que copier ce que Dieu a déjà fait. Cette justice-là, Dieu ne peut pas se contenter juste de la dire oralement. Dieu, ce qu'il fait, il la met par écrit. C'est ce qu'on appelle dans un pays, une constitution. Est-ce qu'on peut dire avec moi une constitution? La constitution. Et c'est là que je voulais en venir. La constitution, qu'est-ce que c'est? La constitution, c'est la loi écrite de l'autorité du pays. La constitution, c'est la justice écrite, établie par l'autorité et qui nous garantit un cadre juridique et légal permettant d'encadrer nos comportements sociaux les uns avec les autres. Sans la Constitution, le pays ne peut pas être géré. C'est pour cela que quand vous voyez un pays qui va en guerre contre un autre pays, par exemple quand on dit les États-Unis sont allés en Afghanistan, et puis ils ont chassé du pouvoir, je ne sais pas qui, ils sont allés en Libye, on a chassé Kadhafi, etc. Donc pour la reconstruction du pays, il faut réécrire une autre constitution plus démocratique, etc. Vous n'entendez pas tout ça à la télévision? Parce qu'on a besoin d'une constitution, on a besoin d'un cadre juridique pour gérer les gens. Mais le problème avec les citoyens du pays en question, c'est que eux, comme ils sont ignorants, ils ne connaissent rien à la justice et à la loi, il n'y a que les intellectuels, mais je rajouterai très mal intentionnés, qui vont manipuler la Constitution à leur avantage. Et c'est comme ça que les gens disent « Oh, alléluia, printemps arabe, on est sorti de la galère, on a chassé Moubarak, on a chassé Kadhafi, on a chassé l'autre là. » 6 mois après, les frères musulmans n'en veulent plus. Pourtant, les frères musulmans étaient loués il y a 6 mois. Ils ont manipulé le cadre juridique et tout le monde s'est rendu compte 6 mois après que, oh mais purée, c'est tout à leur avantage, mais en fait, rien n'a changé en fait. C'est tous les mêmes. C'est pour cela que les peuples sont maltraités. Les peuples sont maltraités parce que dans le cadre démocratique que les hommes dans lesquels les hommes ont choisi de vivre, ils élisent des gens, ils disent à ces gens, gouvernez-nous, établissez un document juridique qu'on appelle une constitution, et mettez-y des lois pour nous gérer à notre avantage et à notre privilège. Sauf que les gens, quand ils ne vivent pas tous ces avantages, ils ne se sentent pas privilégiés, mais plutôt frustrés. Ils ne se sentent pas épanouis dans leur pays, mais plutôt en train de souffrir. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais ils vomissent les dirigeants de leur pays. C'est ce qui se passe actuellement, non? Dans notre pays. C'est ce qui se passe. Il était loué il y a 4 ans, mais aujourd'hui, la plupart le rejettent. Pourquoi? Parce que les gens se rendent compte que c'est une minorité de personnes qui vivent très bien. Et nous, on continue de souffrir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont manipulé le cadre juridique, tous les principes, les systèmes politiques, juridiques, etc., les stratèges, comment faire sortir l'argent, rentrer l'argent, etc. Donc les gens se plaignent de tout ça. Les gens disent, mais nous, on ne comprend rien à tout ça. Tout ce qu'on voit seulement, c'est qu'on souffre. Mais le problème, c'est qu'il faut vous renseigner, vous instruire. Une fois, vous n'avez pas vu dans les rues, souvent de Libreville, vous voyez souvent des gens qui nettoient toujours le même endroit au bord de mer avec des manteaux jaunes écrits derrière Agli. Vous n'avez pas vu ça? Et les gens disent, mais c'est toujours la même personne. C'est toujours les mêmes. C'est toujours eux qui gagnent de l'argent. C'est toujours eux qui ont les mêmes marchés. C'est toujours eux qui... C'est illégal. Je me suis renseigné. C'est pas du tout illégal. Le gars, il n'est pas du tout dans l'illégalité. Le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une société, il est parti voir ses confrères, et il leur a dit, quand vous débloquez les budgets, L'argent, là, ce n'est pas la peine d'aller prendre un prestataire extérieur pour venir nettoyer les rues de Libreville. Je crée la société, donc l'argent, vous me le donnez. Abus de position qu'il fait, là. Oui, il fait abus de position, mais d'un point de vue juridique, il est dans la légalité. Eh oui. On avance. Donc, la constitution est très importante. C'est la parole écrite du roi. C'est la parole écrite de l'autorité. Donc, ce document est très important parce qu'il fait office de loi et c'est celui qui encadre la vie des citoyens. Et ce document, qu'on appelle la constitution, c'est ce que Jésus-Christ appelle la justice de Dieu. Jésus-Christ dit « Cherchez premièrement le royaume ». Qu'est-ce qu'on entend par royaume? C'est ce qu'on a vu jusqu'ici et qu'on continuera de voir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le royaume. Cherchez premièrement le royaume et la justice. C'est-à-dire, cherchez à comprendre, je paraphrase, cherchez à connaître, cherchez à maîtriser, cherchez à être instruit sur les lois de Dieu. Sur la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu, c'est ce qui régit vos vies. Dans la loi, qu'est-ce qu'il y a? Dans la loi, il y a des statuts. Dans la loi, il y a des commandements, des ordonnances, des principes qui vont te permettre, lorsque tu les connais, de mieux gérer ta vie, comment dire, d'avoir des clés entre tes mains pour pouvoir activer un certain nombre de choses. C'est ce que Jésus-Christ a appelé dans le livre de Matthieu au chapitre 16, au verset 18, lorsqu'il dit « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» à ses disciples. Et Pierre répond, tu es le Christ, le Messie, celui qui doit venir. Et il dit, sur cette déclaration, Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite à Pierre? Il dit, Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu permettras, Matthieu 18, verset 18, tout ce que tu permettras sur la terre sera permis dans les cieux. Et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Version semeur de la Bible dit, tout ce que tu interdiras sur la terre sera aussi interdit dans les cieux. Mais grâce à quoi? Les clés du royaume. Le problème aujourd'hui avec les enfants de Dieu, avec les chrétiens, c'est qu'ils ne connaissent pas les clés. Ça ne vous est jamais arrivé d'être à la maison et puis vous retrouver dans un vieux tiroir, un trousseau de clés ou bien une clé, et puis vous dites, mais ça c'est la clé de quoi en fait? Vous êtes là, vous essayez ça dans toutes les portes de la maison. Mais ça, c'est la clé de quoi? Je ne sais pas à quoi, quelle porte ouvre cette clé. Eh bien, c'est la même chose. Les enfants de Dieu sont des gens qui possèdent des clés, mais qui ne savent pas comment les utiliser pour ouvrir les portes. Et Dieu met les mains sur la tête et dit, ah, mes enfants, vraiment, ils ne connaissent pas ma loi, ils ne connaissent pas les clés. Prenez un billet de 10 000, vous donnez ça à votre enfant. Vous allez voir ce qu'il va faire avec le billet de 10 000. Il va jouer avec et il va le jeter par terre. Parce que tout simplement, il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Il n'y accorde pas de la valeur. Et bien, c'est exactement la même chose pour les enfants de Dieu. Ils sont dans l'église, dans le royaume de Dieu, en Christ, mais ils ne prospèrent pas, ils continuent de souffrir parce qu'ils n'ont pas la connaissance des clés. Ils n'ont pas la connaissance des lois. Est-ce qu'on me suit? C'est pour cela que quand vous ouvrez la Bible dans le livre des Proverbes, vous n'avez pas remarqué que Salomon, depuis le Proverbe 1 jusqu'au Proverbe 31, il dit tout le temps la même chose. Il dit, mon fils, cherche l'instruction, acquiert la sagesse. Avec tout ce que tu possèdes, acquiert la sagesse. Mon fils, acquiert l'instruction. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Si tu acquiers la sagesse, tu vivras longtemps. Si tu acquiers l'instruction, tu ne souffriras pas. La sécurité sera toujours à tes côtés si tu acquiers l'instruction, etc., etc., etc. Pourquoi Salomon insiste sur ça? Parce que c'est la clé de l'épanouissement dans la vie. Quelqu'un qui n'est pas instruit, c'est quelqu'un qui va souffrir. C'est pour ça que c'est important d'aller à l'école. Mais bien plus encore, c'est pour ça que c'est important d'être instruit selon la loi. Et qu'est-ce que les gens dans les autres religions font, enfin les autres, nous on n'en est pas une. Qu'est-ce que les gens font dans la plupart des religions? Dès le plus jeune âge, on envoie l'enfant à l'école coranique pour qu'il connaisse ça. Chez les juifs, dès le plus jeune âge, on envoie l'enfant à la synagogue pour qu'il apprenne la Torah. Et c'est ce que les juifs appellent leur bar mitzvah. C'est-à-dire quand l'enfant arrive à ses, je crois, ses 13 ans, il est censé connaître la Torah par cœur. Et c'est ce qu'on voit souvent à Paris, où les juifs fortuné loue les stades de France, les salles de marché de Paris, les grandes salles de spectacle, et ils font des spectacles gigantesques qui coûtent des millions d'euros juste parce qu'un gamin de 13 ans va venir devant des centaines de gens réciter par cœur la Torah. Vous savez que les Juifs font ça? Parce que pour eux, c'est quelque chose d'extraordinaire que dès son plus jeune âge, ils connaissent la loi de Dieu par cœur. C'est-à-dire qu'il va réussir dans la vie, cet enfant. Et moi, papa, je peux claquer beaucoup d'argent pour ça. Tellement je suis heureux qu'il ait réussi cet exploit. Mais nous, on envoie nos enfants où? On les envoie dans les bambinos, les kikinous, ces choses-là. Hein? On envoie nos enfants là-bas, et puis l'enfant arrive à la maison, il te ramène des mots bizarres, il te ramène tout un tas de choses, il ne sait même pas bien parler, allez, il est déjà âgé, il ne sait même pas lire et écrire, il te fait plein de fautes dans une phrase. Et Dieu met les mains sur la tête et dit, ah mes enfants, vraiment. Et c'est comme ça qu'on reproduit dans l'église des adultes qui restent bébés. Des gens qui ont 40 ans dans l'église, mais qui ne savent même pas prier. Quand tu lui dis, c'est quoi Jean 3:16? Jean 3 quoi? Jean 3:16. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, c'est quoi? Il pourvoira à tous mes besoins. Non, c'est pas ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Un verset très important, comme ça tu connais même pas. Et tu es dans l'église depuis combien de temps? Oh, 20 ans. 20 ans, et tu connais pas ça. Est-ce que vous me suivez? Vous voyez où je veux en venir? Les gens ne sont pas instruits. La constitution du royaume, est-ce qu'on peut dire avec moi la constitution du royaume? La constitution dans un pays est un document extrêmement important. Dans le royaume de Dieu, comme dans tout pays, il y a aussi une constitution. Cette constitution constitue le cadre juridique qui nous gère dans le royaume de Dieu. Nous vivons dans le monde, mais nous sommes aussi dans le royaume de Dieu en tant qu'enfants de Dieu. Et nous devons connaître cette constitution. Cette constitution n'est ni plus ni moins, vous l'avez compris, la Bible. La Bible. Et la Bible n'est pas n'importe quel livre. Donc, la Bible que Dieu nous dit de lire tout le temps, c'est ce que Dieu nous dit dans le livre de Josué au chapitre 1, au verset 8. Je l'ai enseigné ici plusieurs fois pour ceux qui étaient là. Josué était un jeune homme de 20 ans qui avait hérité du leadership et de l'autorité, du pouvoir pour gérer le peuple juif à son époque. Moïse venait de mourir. Il était très jeune. Et effrayé, apeuré, il va voir Dieu dans la prière et il dit à Dieu, je ne sais pas comment je vais faire. Et Dieu lui dit, Josué 1 au verset 8, Dieu ne lui dit pas, oui, il va voir telle personne, etc. Dieu lui dit une chose, sois courageux. La deuxième chose qu'il lui dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et applique-y tout ce que tu y liras. C'est alors, virgule, que tu réussiras dans toutes tes entreprises. La version Louis II dit, c'est alors que tu auras du succès. Les mots succès qu'on aime autant dans le monde, là, on aime le succès. C'est l'un des seuls endroits dans la vie où Dieu utilise ce mot, succès. Dieu connaît aussi ce mot, succès. Et Dieu dit, si tu veux avoir le succès dans la vie, eh bien, connais la constitution, connais les lois, connais les principes, connais les ordonnances, connais les commandements, connais les clés qui vont te permettre d'ouvrir. Quand tu connais les clés, je vous assure, quand tu connais les clés divines pour opérer, je t'assure, quand tu poses des actes, tu sais, tu connais les retours sur investissement. Et les gens autour de toi disent, mais comment il fait pour connaître de telles percées, ce gars-là? C'est parce que tu connais les clés. Jésus-Christ était quelqu'un d'extraordinaire, les gens disent. Il voit, Seigneur, oui, qu'est-ce que tu veux? Je veux être pur. Oui, je le veux, sois pur. Pouf, il est guéri. Seigneur, je suis malade. Je t'impose les mains, lève-toi, marche. Seigneur, renvoie-les, il n'y a plus à manger, qu'avez-vous? Deux pains et trois poissons, donnez-leur à manger vous-même. Allez, 5000 personnes sont nourries. Il rendit grâce, etc., etc. Jésus-Christ n'était pas quelqu'un d'extraordinaire. Jésus-Christ était simplement quelqu'un qui avait des clés. Et il savait comment les utiliser. Et nous devons prendre exemple sur lui. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc, dans le royaume de Dieu, il y a un document, un cadre juridique qu'on appelle la Constitution. Et c'est une priorité pour Dieu que l'on connaisse ce cadre juridique-là. C'est pour cela que Jésus-Christ nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la Constitution, la justice de Dieu. » Et la Bible et cette Constitution, cette alliance que Dieu a avec ses enfants. La Constitution dans un pays, c'est l'alliance de l'autorité avec ses citoyens. Et dans le cadre d'une démocratie, d'une république, c'est-à-dire le pays dans lequel nous vivons, la Constitution qui régit le cadre juridique dans lequel nous vivons, c'est l'alliance que le peuple a fait avec lui-même. Oui, c'est l'alliance que le peuple a fait avec lui-même. Tous les pays francophones africains, pour la plupart, ont adopté la Constitution de 1789, des droits de l'homme. Ils ont adopté ça, venant des Français. Eux-mêmes, ils n'étaient pas capables de rédiger leur propre Constitution. Ah, vraiment, les Africains. Et d'où vient cette Constitution, cette déclaration de 1789? Elle vient d'un ras-le-bol. Les gens à l'époque en France étaient gérés par des rois. C'était des royaumes. Malheur à un roi qu'on appelle Louis XVI, c'est tombé sur lui et pas sur ses frères. Les gens en ont eu marre qu'il y ait toujours une minorité qui vive les mêmes privilèges et nous on souffre. Ils se sont rebellés, ils ont coupé la tête au roi et à Marie-Antoinette, la pauvre, et puis ils ont dit désormais c'est nous qui régnons dans ce pays, et on va élire à la tête du pays des Montesquieu, des Descartes, des Montaigne, des Voltaire, et tous ces gens-là qui ont marqué leur temps. Et ce sont ces gens-là représentant les peuples qui ont rédigé le document qu'on appelle la Constitution de 1789, Déclaration des droits de l'homme. Et cette Constitution, comment est-ce qu'elle commence? Je me suis renseigné. Vous savez comment elle commence? Elle commence, nous le peuple, nous le peuple. Et je suis allé, je me suis dit, ok, va regarder un peu la Constitution du Gabon. La Constitution du Gabon commence, nous le peuple gabonais. Nous le peuple gabonais. J'ai noté ça quelque part, mais je ne me retrouve même plus. Nous le peuple gabonais. Donc dans une démocratie, la Constitution est l'alliance que le peuple fait avec lui-même. Mais dans un royaume, la Constitution est l'alliance que le roi fait avec son peuple. C'est un contrat. La Constitution dans une république est rédigée par les gens eux-mêmes. D'accord? Et dans le royaume, c'est le roi lui-même qui rédige la Constitution. C'est pour cela que on élit des gens, ils passent des mois et des mois à rédiger une Constitution et ensuite ils viennent nous la présenter et on adopte cette Constitution. Et ce qui est différent avec le royaume de Dieu, avec Dieu, c'est que nous, quand Dieu nous a créés, la Constitution était déjà rédigée. C'est pour cela que chaque fois que vous voyez Dieu parler à un homme dans la Bible, vous n'avez pas remarqué qu'il donne toujours des ordres. Il ne demande pas, il dit jamais s'il te plaît. C'est un mot qui n'existe pas dans la Bible, s'il te plaît. Dieu dit jamais s'il te plaît, parce qu'il dit c'est moi le roi. Et la Constitution est un document qui reflète les aspirations et les désirs des gens qui l'ont rédigé. C'est pour cela qu'elle commence par nous, le peuple, nos aspirations, nos désirs, ce que nous, on veut. On le met dans un document et c'est ça qui va nous diriger. Dieu, lui, il dit, moi, l'Éternel des armées, je dis que. Amen. Regardez, j'ai pris quelques versets rapidement. Matthieu 5, verset 27. Regardez le discours de Jésus, c'est très intéressant. On a bientôt fini. Jésus-Christ dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, 27. Il continue, Matthieu 5, 32. Il a été dit, et les gens sont là, ils l'écoutent, ils disent, ah, mais le gars, il parle bizarrement. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudié, commet un adultère. Matthieu 5, verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. C'est pas comme ça que les gens gèrent leur relation dehors. Il me fait du mal, je lui rends. Œil pour œil, dent pour dent. Jésus-Christ, le roi, dit, mais moi, je vous dis que dans mon royaume, il ne faut pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Et là, tu lui réponds, moi, dans ma démocratie, je présente jamais l'autre joue, je rends. Il dit dans mon royaume, quand quelqu'un te gifle, tu lui tends l'autre joue. C'est ce qu'on appelle l'amour. Matthieu 5, 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Qui parle ici? C'est le roi. Jésus, vous avez eu l'habitude, vous avez grandi dans un monde, dans un pays où c'est comme ça qu'on fait. Mais moi, maintenant que vous êtes enfant de mon royaume, on fonctionne maintenant à ma manière. Est-ce qu'on me suit? La constitution du royaume. Et c'est pour cela que beaucoup d'enfants de Dieu ont des problèmes avec Dieu. Parce qu'ils voient Dieu comme quelqu'un qu'ils ont élu. Quelqu'un qui est là pour faire leur volonté à eux. C'est pour cela que il y a beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils prient, ils sont toujours en train de demander quelque chose. Comme les citoyens de notre pays qui font tout le temps des doléances au chef de l'État. On veut ça, on veut ça, on veut des routes, on veut des écoles, on veut ça, on veut ça. Et le chef de l'État, bouche cousue, dit, faites-le vous-même. C'est pour ça qu'on n'a pas de route chez nous. Et ils disent, il y en a marre, on t'a voté pour ça, on t'a voté pour telle chose. Mais après 5 ans, on ne voit toujours rien. On ne comprend rien au cadre juridique, mais on veut quand même que les choses changent. Mais lui, il dit, basta, je fais ce que je veux. C'est ce que je veux, moi, que je fais. C'est comme ça qu'on a à la tête de plusieurs pays africains, on a à la tête de plusieurs pays des gens qui sont des gros bébés gâtés, qui font ce qu'ils veulent. Il arrive au pouvoir, la première chose qu'il fait, c'est se remplir les poches et s'acheter la voiture de ses rêves. Il arrive au pouvoir, la première chose qu'il fait, c'est se construire le palais le plus gigantesque au monde. Alors qu'il a été élu par des gens. Dans une démocratie, c'est le peuple qui a rédigé la constitution en commençant, nous le peuple, qui élit quelqu'un, le met à la tête du pays. Et si la personne ne fait pas le boulot, on la vire par le vote. C'est pour ça que les élections de 2 ans, là, ça va être chaud. Parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas contents. On le vire par le vote. Mais dans le royaume, tu ne vires pas le roi. C'est toi qui vires. Le roi, il est souverain. Amen. Et on va terminer par là. Donc, la Bible est une constitution, c'est-à-dire un contrat royal que Dieu a fait avec nous. Et ce contrat, on doit en connaître les termes. On doit être capable de lire la parole de Dieu et la maîtriser. C'est pour cela que la Bible, qui est la volonté écrite du roi des cieux, c'est-à-dire Dieu, tous les citoyens du royaume doivent la connaître. Tous les citoyens du royaume doivent la connaître. Un enfant de Dieu qui ne connaît pas la Bible est un citoyen qui ne connaît pas la loi, est un citoyen qui ne connaît pas comment utiliser les clés qui le rendront heureux et lui assureront le bonheur. C'est pour cela qu'on doit lire la parole de Dieu. Un enfant de Dieu qui ne lit pas la parole de Dieu est un enfant de Dieu qui est en danger, spirituellement, à commencer spirituellement, mais aussi au niveau de la vie de tous les jours. Il ne prospérera pas. Quelqu'un me dira, oui, mais les gens de dehors, ils ne lisent pas la Bible, mais pourtant ils prospèrent. Tu as l'impression qu'ils prospèrent. Oui, mais regarde, il est riche, etc. Tu penses que la prospérité se limite juste à la richesse? Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient immensément riches, mais qui étaient très malheureux, qui se sont même suicidés. Une fois, je regardais une chaîne de télévision, je regardais Canal+, et il y avait un chanteur français, dont je tairai le nom, très connu, qui était sur le plateau. Et puis, la journaliste lui dit, mais vous avez tout maintenant. Vous avez une très belle carrière, vous avez de l'argent, tout ça. Et il répond, je n'ai pas tout, madame. Il dit, mais si, vous avez tout ce qu'on peut rêver d'avoir, monsieur. Il dit, vous êtes sûr qu'on peut, j'ai tout ce qu'on peut rêver d'avoir? Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, madame. Il dit, par-dessus tout, mon plus grand rêve, c'est d'avoir un gosse. Je n'ai pas de gosse. Et là, il commence à pleurer sur le plateau. Donc, tout le monde est ému. Et tout le monde applaudit. Oh, il faut encourager. Mais en fait, je voyais à la télévision un gars qui était malheureux. Il avait tout l'argent du monde, mais il était malheureux, il n'avait pas de gosse. Donc, bénis le Seigneur quand tu as des enfants. Hein? Bénis le Seigneur pour ça, parce qu'il y en a qui cherchent ça. Il y en a qui cherchent ça grave. Toi, tu n'as pas leur argent, mais tu as quelque chose qui vaut bien plus que tout l'argent qu'il a. Amen. Donc, la Bible, il faut la connaître. C'est la constitution du royaume qui régit nos comportements, nos relations et la relation que nous avons avec Dieu. La Bible est l'alliance dans laquelle se trouvent toutes les promesses, les avantages et les privilèges que nous sommes censés vivre en tant qu'enfants de Dieu. Et tout enfant de Dieu qui ne connaît pas la Constitution est un enfant de Dieu qui ne connaît pas ses privilèges, qui ne connaît pas les avantages qu'il est censé vivre sur la terre. Amen. Donc si tu veux avoir la faveur du roi, assure-toi d'obéir à la loi et de te baser sur la Constitution lorsque tu viens devant sa présence. Le roi dit, viens et plaidons. Vous ne connaissez pas ce passage dans le livre de Ésaïe? C'est Ésaïe, je ne me rappelle plus le passage, Ésaïe 1:18, il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Ce sont des termes juridiques qu'il utilise. Hein? C'est qui utilise les mots comme plaider? Ce ne sont pas les avocats et les juges, tout ça? Il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Ésaïe 41, verset 21. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Tu vas prier le matin. Dieu dit, ok, je m'assois, je t'écoute, plaide. Et tu es là, tu parles, mais tu n'utilises pas les termes juridiques. Tu dois toujours t'appuyer sur la loi. Amen. Et on va finir avec ce dernier point. L'avantage. Quel est l'avantage de connaître la Constitution? Pourquoi est-ce qu'il est important de la connaître? Connaître la Bible nous procure différents avantages. Le premier avantage, c'est que connaître la constitution du royaume en tant que citoyen, en tant qu'enfant de Dieu, te remplit d'assurance et de paix. Te remplit d'assurance et de paix. Dans le psaume 119, au verset 23, il est écrit, c'est David qui parle, il dit, « Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite quoi? Tes statuts, tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. » Voilà pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu. C'était quelqu'un qui avait compris l'essentiel. Et c'est pour cela que quand David parlait, Dieu disait, « Ah, mais le gars-là, il a compris ce que j'appelle ma justice, ma constitution. » Le premier avantage à connaître la constitution, c'est ça. Elle te remplit d'assurance et de paix, quelles que soient les difficultés. Des gens peuvent venir contre toi, tu te tiens devant la loi et tu dis au nom de Jésus-Christ, « Je me tiens dans la justice, Christ est ma justice. » 1 Corinthiens 1:30, « Il est ma justice, il a été fait justice pour moi. » Et je me tiens dans cette vérité de la parole-là pour vous contrer. Deuxième avantage que te donne de connaître la parole de Dieu, que te donne de connaître la constitution du royaume, c'est qu'elle te rend intelligent et sage. Dans le psaume, chapitre 119, au verset 99, David nous dit aussi, « Je suis plus instruit que tous mes maîtres. » Car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Et je peux vous assurer, pour l'avoir expérimenté, quand tu sors la parole de Dieu devant des gens, ah oui, tu as l'air plus sage qu'eux, même s'ils sont plus âgés que toi. Ils disent, ah, il est jeune, mais quand il parle, il y a quelque chose là-dedans. Elle te donne de l'intelligence et de la sagesse. Troisième avantage que te donne de connaître la constitution du royaume des cieux, c'est-à-dire la parole de Dieu, la Bible que nous devons tous lire, c'est qu'elle te procure la sécurité et la protection divine sur le chemin de la vie. Psaume 119 au verset 105, David nous dit encore, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. » Quatrième avantage que te procure, que te donne de connaître la parole de Dieu, la constitution de ton royaume en tant qu'enfant de Dieu, c'est qu'elle augmente et fortifie ta foi. Souvent, ça t'arrivera de faiblir dans la foi. Ça t'arrivera de te sentir faible. Mais c'est dans la parole qu'il faut aller chercher cette foi-là. C'est dans la parole qu'il faut aller chercher cette force. Romains 10, verset 17 nous dit, c'est Paul qui parle, il nous dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Christ. » Plus tu connais la parole, et plus tu as la force de te tenir debout, plus tu as la foi. Amen. Cinquième avantage à connaître la constitution, la parole de Dieu, c'est qu'elle te fait, elle fait asseoir ton autorité dans le royaume, car tu as une autorité en tant qu'enfant de Dieu. Matthieu 7, au verset 28, c'est Jésus qui parle. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, c'est-à-dire de sa parole, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes, c'est-à-dire les gens qui les enseignaient à leur époque. Sixième avantage que te donne de connaître la parole de Dieu, l'avant-dernier, c'est que connaître la parole de Dieu est une épée entre tes mains pour détruire les œuvres du diable dans ta vie. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, le diable te fera ça dur. Il te fera ça dur. Tu verras des malheurs arriver dans ta vie, tu ne comprendras même pas d'où ils viennent. Alors que si tu te tenais dans la parole de Dieu, dans la vérité, dans la constitution, tu aurais déjà anticipé toutes ces choses-là. Tu te tiens, tu décrètes, tu parles. Quand tu vois le malheur arriver, tu dis au nom de Jésus, je vous stoppe là. Au nom de Jésus, la maladie ne frappera pas à ma porte. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que Christ a porté nos iniquités. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, la guérison est une promesse qui est contenue dans l'alliance, la constitution que j'ai avec Dieu. Alors, je refuse la maladie. Je dis que je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Car c'est une promesse et cette promesse, je la vis aujourd'hui. Je me base sur ça, Seigneur, pour intercéder devant toi. Et Dieu dit, approuvons, approuvez. Il a utilisé la constitution. Amen. Hébreux 4:12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Éphésiens 6:17, Paul nous dit encore « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est quoi ? La parole de Dieu. » Et enfin, dernier point, connaître la parole de Dieu, la constitution du royaume, est une source de vie dans ta bouche. Par la parole de Dieu, tu peux amener à la vie ce qui est mort. Et Paul nous dit, Philippiens 2,14, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant quoi ? La parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. » Gloire à Dieu. La constitution du royaume, la parole de Dieu, la Bible, est un élément extrêmement important. C'est pour cela que Jésus-Christ dit de chercher ça premièrement. On va incliner la tête. Et ma prière, c'est que tu puisses aller devant Dieu, que tu puisses aller devant le trône et que tu dises, Seigneur, déjà Seigneur, je te demande pardon pour mon ignorance. Pas pardon parce que tu as péché en acte, mais tu lui demandes pardon pour ton ignorance. L'ignorance, le fait de ne pas connaître la parole, le fait de ne pas connaître la justice. Et tu dis, Seigneur, je te demande pardon parce que je n'avais pas compris. Mais maintenant que j'ai compris, je lirai la Constitution, je lirai ta parole autrement. Je comprends que ta parole est un livre juridique. Je comprends que ta parole, c'est ta justice. Et je comprends que Christ m'a dit que je dois chercher premièrement la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est ce cadre juridique dans lequel sont contenues toutes les lois, tous les principes, les statuts, les commandements qui sont censés assurer mon confort, mon bonheur, mon épanouissement personnel. Et je te demande de me rendre intelligent, de me rendre sage et de me rendre instruit afin de comprendre ta parole. Comme tu l'as dit à Josué, médite ce livre de la loi jour et nuit, ne t'en écarte point, qu'il soit toujours dans ta bouche, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Seigneur, je veux aussi connaître le succès. Je veux aussi connaître la réussite au niveau personnel, au niveau de mon couple, au niveau de mon mariage, au niveau de mes enfants, au niveau de ma carrière professionnelle. Je veux prospérer, Seigneur. Mais pour cela, je comprends que la priorité, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire, ce n'est pas les vêtements. La priorité, c'est ta justice. C'est de connaître ta parole, de comprendre la constitution du royaume. Car nul n'est censé ignorer la loi, Seigneur. Et tout comme tu as dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. À cause de ces clés, Seigneur, je te rends grâce pour les clés du royaume que tu as déposées entre mes mains. Tel est mon héritage en Christ. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que ces clés, désormais, je les utiliserai pour mon bonheur. Je les utiliserai pour prospérer. Je les utiliserai pour vivre. Je les utiliserai pour développer ma relation avec toi. Je les utiliserai pour développer ma vie, tout simplement. Et je te rends grâce pour la connaissance de ta parole qui éclaire, Seigneur, et qui me donne de l'intelligence. Tu dis dans ta parole, dans le psaume 119, « Comment le jeune homme guidera-t-il son sentier ? par la parole de Dieu, par la constitution du royaume des cieux. Merci Père pour ta parole. Merci Seigneur pour la révélation de ta parole qui donne de l'instruction, qui donne de la connaissance. Merci pour la priorité. Tu nous fais comprendre Père au travers de ce message que ta priorité c'est ta justice, ta priorité c'est ton royaume, que nous connaissions ton royaume. Et nous te disons simplement merci pour la connaissance de ta parole. Accorde-nous la grâce de l'appliquer à notre vie. Accorde-nous la grâce de ne point nous en détourner, de toujours trouver du temps dans la journée pour la méditer, pour la comprendre. S'il faut qu'on se lève plus tôt, on va se lever plus tôt pour la méditer. S'il faut qu'on se balade avec la Bible sur nous, on va se balader avec la Bible sur nous. S'il faut l'écouter dans un lecteur MP3, on va l'écouter dans un lecteur MP3. S'il faut écouter des enseignements, on va écouter des enseignements. S'il faut regarder des vidéos sur YouTube, on va regarder des vidéos sur YouTube. Mais Seigneur, que ta parole soit toujours à mes côtés et qu'elle soit toujours ma force. Qu'elle soit une épée entre mes mains. Qu'elle soit ma sagesse, qu'elle soit mon instruction, qu'elle soit cette lumière qui éclaire mon sentier, Seigneur. Merci, Père. À toi soit la louange et toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen et acclame le Seigneur simplement. Amen.
Espérons que vous avez été richement édifié par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.